Chapitre 9, le rendez-vous de la force, la force. Je ne suis pas du tout parmi ceux qui insultent le Paris neuf, dont les larges voies s'inondent d'air et de lumière. Il a coûté, dit-on, ce Paris, beaucoup trop d'argent, mais la santé publique vaut bien la peine de n'être point marchandée. Je lui reprocherais plutôt à cette ville blanche et nouvelle d'avoir dissipé en passant tout un trésor de souvenirs, sans nier la beauté un peu trop bourgeoise des fameux boulevards, qui ne sauraient être habités que par des riches. Je songe malgré moi à cet autre Paris, moins esclave du cordeau, où les palais n'avaient pas honte de se laisser approcher par les masures. C'était le Paris historique, celui-là, dont chaque maison racontait une légende. Et tenez, là-bas, au fond de ce vieux marais, par-dessus lesquels les embellissements Haussmann ont sauté pour arriver plus vite au point stratégique du faubourg Saint-Antoine, vous trouveriez encore un tel écheveau de rues, à la fois populaires et nobles, dont le seul aspect vaut tout un volume de Delort ou de Saint-Victor. Je me rappelle la mansarde où fut écrit mon premier livre. C'était en 1840, hélas. De ma fenêtre donnant sur les derrières de la rue pavée, je voyais les croisées de Madame de Sévigné à l'hôtel Carnavalet, ce bijou de pierre qui n'échappera pas à l'épidémie des restaurations municipales. Je voyais, dis-je, le logis de l'adorée marquise par-dessus le roulage qui remplaçait la maison de Charles de Lorraine où fut le berceau des Guises. Je voyais aussi le grand hôtel de Lamoignon, bâti par Charles IX pour le duc d'Angoulême, fils de Marie Touchet, celui-là même dont Allemand des Réaux, le roi des bonnes langues, disait « Il aurait été le plus grand homme de son siècle s'il eût pu se défaire de l'humeur d'escroc que Dieu lui avait donnée. » Quand ces gens lui demandaient leur gage, il répondait « Marot, ne voyez-vous point ces quatre rues qui aboutissent à l'hôtel d'Angoulême? Vous êtes en bon lieu, profitez des passants. » Ce fut pourtant dans la chambre à coucher de ce brillant coquin que naquit l'austère avocat de Louis XVI, monsieur de Malesherbes. Je voyais enfin les pignons confus, bizarrement pittoresques et toujours charmants, malgré leur destination lugubre, de ces deux palais jumeaux, l'hôtel de Caumont et l'hôtel de Brienne, qui étaient devenus prison après avoir abrité tant d'élégance et tant de joie. J'étais voisin de la force. Et ceci n'est pas tout à fait une digression oiseuse, car c'est à la force que nous allons retrouver un de nos meilleurs amis, le lieutenant Maurice Pagès. La barre qui me servait de balcon dominait les deux seigneuriales demeures qui, depuis l'an 1780, remplaçaient le fort l'évêque et le petit Châtelet. Par-dessus le préau, dit la cour de Vitolet, parce qu'elle était jadis habitée seulement par les détenus condamnés pour n'avoir point payé les mois de nourrice de leurs enfants, j'apercevais le profil des trois grands salons où le père de monsieur le duc de Lauzun donnait à danser, ainsi que l'œil de bœuf de l'hôtel de Brienne, qui, par une matinée de septembre, montra pour la dernière fois le soleil des vivants à la malheureuse princesse de Lamballe. Immédiatement en dessous de ma lucarne était un mur tout neuf et qui ne semblait servir à rien. On l'avait bâti à la suite de plusieurs évasions hardies qui avaient eu lieu par les jardins de la maison même que j'habitais et dont une aile en pavillon touchait les clôtures de la petite force. Un instant, les évasions avaient été fréquentes au point de tenir tout le quartier en éveil, et les loyers des étages inférieurs de ma maison en étaient tombés à vil prix. Le mur neuf n'avait cependant fermé qu'une route. On s'évadait maintenant d'un autre côté. Pour empêcher ce jeu, il fallut démolir la force. C'était le matin de notre visite à cette autre prison, l'établissement du docteur Samuel. Il pouvait être 9 heures du matin. Le temps continuait d'être sombre et froid. La neige foulée couvrait les pavés comme un mastic brunâtre. Dans la paisible rue de Roi de Sicile, qui était alors le meilleur chemin pour descendre de la place royale à l'hôtel de ville, de rares passants allaient et venaient. Le factionnaire de la porte basse de la force, empaqueté dans son manteau gris, battait la semelle au fond de sa guérite. Cette porte basse, qui s'ouvrait rue de Roi de Sicile, commençait la série des numéros pairs. L'entrée principale était au numéro 22 de la rue pavée. À l'angle de ces deux voies, du côté de la rue Saint-Antoine, il y avait une buvette borgne qui s'était donné bonnement pour enseigne le nom même de la sombre demeure. Au-dessus de ces trois fenêtres, masquées de cotonnats de gros bleu, on pouvait lire cette enseigne « Au rendez-vous de la force, l'heureux limonadier vend vin, eau-de-vie et liqueur ». Tous les rideaux tombaient droits, cachant l'intérieur de la buvette, excepté celui de la croisée qui se rapprochait le plus du coin de la maison et d'où il était possible d'apercevoir à la fois la porte basse de la rue de Roi-de-Sicile et la grande porte de la rue Pavée. Là, derrière le rideau relevé en angle, on pouvait distinguer, à travers le carreau troublé, la tête pâle et triste d'un très jeune garçon coiffé d'une casquette et guettant le dehors d'un regard attentif. Ce jeune garçon avait le costume ordinaire des ouvriers parisiens, en semaine, mais sa figure délicate et d'une blancheur maladive contrastait avec la grosse toile de bourgeron gris qu'il portait par-dessus sa veste. Il était en vérité trop beau. Aussi, le petit homme replet, qui répondait au nom de Joseph Fleureux et qui gouvernait le rendez-vous de la force, et dit-il en apportant le verre de vin chaud que l'adolescent avait demandé, « Le travail ne vous a pas fait tort à votre peau, jeune homme. Si nous avions encore des détenus politiques ici près, je saurais quel martel vous avez en tête. » Il en venait assez de votre poil dans le temps, qui avait l'air comme vous d'avoir logé dans des boîtes où il y a du coton. « Je sors de l'hôpital, » répondit l'adolescent avec calme. Sa voix était douce mais grave. L'heureux essuya le coin de la table et grommela, « Tiens, c'est la voix d'un petit gars tout de même. » L'adolescent ajouta en soutenant le regard curieux du cabaretier, « J'ai bien peur d'être obligé d'y rentrer. » À l'hôpital, fit l'heureux. Oh, pour ma part, je n'y ai jamais fréquenté. Les bons vivants comme moi ne vont à l'Hôtel-Dieu que pour leur dernier coup de sang. Voilà des vrais tempéraments. Buvez votre vin pendant qu'il est chaud, mon petit, et faites votre faction. Par le temps que nous avons, pas de risque que les chalands vous dérangent avant midi. L'heureux eut un sourire malin et s'en alla à ses affaires. Notre jeune garçon voulut suivre son conseil et trempa ses lèvres blêmies dans le vin, mais son visage prit une expression de dégoût et le verre plein fut reposé sur la table. Son regard, qui exprimait à la fois une résolution très arrêtée et une amère souffrance, se dirigea vers le coucou suspendu à la muraille. Le coucou marquait 9h15. Les yeux de l'adolescent se reportèrent vers le dehors, interrogeant tantôt l'une, tantôt l'autre des deux rues. « Ça ne vient donc pas ?» demanda au bout d'un quart d'heure Joseph Lheureux, qui se chauffait au poêle dans la salle voisine. « À quelle heure, dit le jeune homme, au lieu de répondre, commence-t-on à entrer pour voir les détenus ?»« Ça dépend, répliqua Lheureux. Il y a toujours des passe-droits pour les banqueroutiers. Ah, les fins merles, êtes-vous là pour un banqueroutier ?» « Non, j'attends ma mère qui est allée au palais chercher le permis du juge d'instruction. »« Alors c'est un prévenu. Ça dépend encore de ceci, de cela, et puis de la coupe des cheveux. J'ai idée que votre maman ne doit pas être une comtesse, jeune homme, dit donc. Ma mère est maîtresse d'une ménagerie. »« Oh, bon état, et c'est vous qui soignez les petites souris blanches, farceur. Allons. » Vous ne pouvez pas avoir les mains d'un tailleur de pierre. Reste à savoir quelle est la position sociale du prévenu. » Le jeune garçon ouvrait la bouche pour répondre, mais tout à coup un rouge vif remplaça la pâleur de ses joues et il bondit sur ses pieds. « Bigre !» fit le père l'heureux. « Nous ne sommes pas si engourdis que je croyais. » Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. L'adolescent jeta une pièce de 5 francs sur la table et s'élança vers la porte. Une voiture venait de s'arrêter, rue Pavée, devant l'entrée principale de la force. Le père Lheureux s'installa à la place encore chaude du jeune garçon et s'accouda tranquillement sur l'appui de la croisée. « Voyons voir, dit-il, nous sommes aux premières loges. Il paraît qu'il ne s'inquiète pas de sa monnaie, le blanc-bec. Sans la maman qui descend là-bas, j'aurais juré que ce garçonnet-là était un beau brin de minette. » La maman descendait en effet, et son poids sur le marchepied faisait pencher le fiacre comme un navire qui reçoit un grain dans ses hautes voiles. Après elle, un homme de large carrure, mais d'aspect tout à fait débonnaire, sortit du fiacre. Il était vêtu de bons draps bruns et paraissait mal à l'aise dans son costume tout neuf. un vaste cabas attaché avec des courroies comme une gibecière pendait à son cou. « Comment, comment ? » pensa le père Lheureux, « c'est ce colosse de femme qui a pondu un enfant si mièvre. » À cet instant même, le jeune garçon aborda sa maman, qui fit un pas en arrière et parut le regarder avec une véritable stupéfaction. Elle se remit pourtant et prit le bras qu'on lui tendait pour passer le seuil de la porte, après avoir parlé tout bas à l'homme porteur du cabas, qui s'éloigna aussitôt à grandes enjambées dans la direction de la rue des Francs-Bourgeois. Le maître du rendez-vous de la force avait regardé tout cela curieusement. « Il y a des choses qui n'ont l'air de rien pour les innocents, se dit-il en regagnant son poêle, mais pour un chacun qui voit plus loin que le bout de son nez, c'est différent. Il y a d'abord la pièce de 100 sous, à moins que l'enfant ne vienne rechercher sa monnaie, mais je parie qu'il ne viendra pas. Il, c'est elle, bien entendu, j'ai distingué la couleur. » Il y a ensuite l'étonnement de la grosse dame, maîtresse d'animaux ou non, quoiqu'elle en possède assez la tournure. L'homme au cabas, nix, ça peut être un mystère, mais je n'ai pas deviné le rébus. Quand messieurs les employés vont venir à midi prendre le premier noir, je saurai un peu de quoi il retourne. Si c'était encore pour le lieutenant de sa fille, il y a déjà eu quelqu'un de mis à pied, rapport à cet Olibrius-là. Le petit à la casquette me semble louche, et je vais avertir les camarades. » Au guichet de la grand-porte, pendant cela, le colloque suivant s'était établi entre la grosse maman et le concierge. La bonne femme avait demandé le lieutenant Maurice Pagès. « On n'entre pas, » répondit le concierge, un peu moins bourru que les romans et les comédies ne le disent, mais néanmoins très désagréable. « J'ai le permis de Monsieur Perrin Champin, » riposta Madame Veuve Samaillou, reconnue dès longtemps par le lecteur. Le concierge prit le permis, l'examina, puis le rendit en disant « Ce n'est pas l'heure !» Comme inconvénient burlesque, irritant, désespérant, impossible, l'admiration française fait l'étonnement de l'univers entier. Nous n'avons pas le temps de développer ici les actions de grâce qu'elles méritent, mais nous déclarons que ces grognards sans chasse-peau, payés pour entraver les affaires et obstruer les passages, seraient, en dehors de toute cause politique, un motif suffisant de révolution. Notez bien qu'ils sont presque toujours 2 douzaines de diplomates pour ne pas faire l'ouvrage d'un seul innocent. Si j'étais grand turc de France, j'en emparlerais 19 sur 20 et je boucanerais le reste. À ce mot assommoir « ce n'est pas l'heure », maman Léo, beaucoup plus calme que nous, et qui d'ailleurs semblait possédée ce matin par une bonne humeur triomphante, répondit « Oh, s'il n'est pas l'heure, on peut l'attendre jusqu'à ce qu'elle sonne. On n'est pas dépourvu de ce qu'il faut pour payer la politesse des employés avec un peu de complaisance par-dessus le marché. Mettez-nous, mon garçon et moi, dans la salle d'attente. » « Il n'y a pas de salle d'attente, » répondit le concierge. « Repassez à 11 heures. » Madame Léo ne se fâcha point encore, seulement ses yeux rougirent, tandis que la fraîcheur de ses bonnes joues, avivée déjà par le vent du matin, arrivait tout d'un coup à l'écarlate le plus riche. « Mon geôlier, dit-elle, je sais la considération qui est exigée par l'autorité compétente, mais n'empêche qu'elle n'a pas le droit de m'embêter d'une course de sapin et plus par le froid aux pieds qu'il fait dans la saison. » J'ai des connaissances dans le gouvernement, moi et mon fils, destinés à ses études complètes dans les premiers collèges. En plus que j'ai rencontré un ami à moi en sortant de chez le juge, monsieur le baron de la Perrière, qui m'a dit « Madame Samaillou, si on vous fait du chagrin là-bas, à la force, faites passer mon nom au sous-directeur. » « Monsieur le baron de la Perrière, » fit le concierge, « connais pas. » Le jeune garçon, qui n'avait point encore parlé, souleva son bourgeron, et prit dans la poche de sa veste une carte qu'il tendit au concierge. « Que vous connaissiez ou non les personnes qui ont la bonté de nous appuyer, dit-il, cela importe peu. Vous ne pouvez pas refuser de remettre cette carte au directeur de la prison. »« Oh, directeur !» se récria le concierge, « rien que ça !» Mais son regard tomba sur la carte et il lut à demi-voix le colonel Bozzo Corona. C'est une autre paire de manches. Il vient dîner ici quelquefois, et quand j'étais jeune garçon de bureau à l'intérieur, il entrait dans le cabinet du ministre comme chez lui. On a bien des raisons de dire qu'il ne faut pas juger les personnes par la mine. Asseyez-vous là, près du poêle, ma bonne dame, et le petit jeune homme aussi. Je vais envoyer quelqu'un à la direction et vous aurez réponse dans 1 minute. Le concierge sortit, emportant la carte du colonel, et maman Léo resta seule avec son prétendu fils. « Ah, chérie, s'écria-t-elle, je t'ai cherché au palais et partout le long du chemin. Je regardais par la portière de la voiture, car j'avais deviné ton idée, rapport à ce que tu m'avais dit, qu'on avait déjà renvoyé un gardien pour t'avoir introduite dans la prison de Maurice. Ah, va-t-il être contente et fâchée aussi, car tu n'as plus tes cheveux, tes beaux cheveux qu'il aimait tant. Mes cheveux repousseront, dit Valentine en souriant. Ah, c'est égal, il faut que tu l'aimes crânement, car il n'y avait pas dans tout Paris une pareille perruque. C'est le marchef qui t'a aidé? Oui, et c'est lui qui m'a donné la carte du colonel. Ah, celui-là me fait peur, tu sais, le marchef. Quoi qu'il y a sur son compte des histoires, a gagné le prix Montyon. Bonne Léo, dit Valentine, mes craintes sont plus grandes encore que les vôtres, car le dévouement de cet homme est inexplicable pour moi, et de plus, je ne comprends pas l'autorité qu'il exerce dans la maison du docteur Samuel. Je vous l'ai déjà dit, et cette pensée se fortifie en moi. Coyatier, dans tout ce qu'il fait pour nous, est soutenu par quelqu'un de plus puissant que lui. Est-ce nous qu'il sert, ou bien ce quelqu'un-là? Et nous-mêmes, ne sommes-nous pas un instrument aveugle entre les mains de celui qui nous dirige lentement mais sûrement vers l'abîme? Si tu crois cela, commença la dompteuse, je ne crois rien, mais je crains tout, et je marche pourtant parce que l'immobilité, ce serait la mort pour Maurice. Tu as ton idée, cependant. J'ai mon espoir, du moins. J'ai tant pleuré, tant prié, que Dieu aura pitié peut-être. Quant à cela, fit la dompteuse, Dieu est bon, c'est connu, mais quand on n'a pas quelque autre petite manivelle à tourner, dame. Que vous a dit le juge? Demanda Valentine brusquement, comme si elle eût voulu rompre l'entretien. Un drôle de bonhomme, répliqua maman Léo, tout chaud, tout bouillant, tout frétillant, et qui ne vous laisse seulement pas le temps de parler. Il sait tout, il a tout vu, il est sûr de tout. Il était en train d'écrire et je m'amusais à le regarder, avec son nez pointu et ses lunettes bleues. Sa plume grinçait sur le papier, comme une scie dans le bois qui a des nœuds. Il déclamait tout bas ce qu'il écrivait. En voilà un qui ne doit pas être gêné pour en tortiller le jury. Il a enfin levé les yeux sur moi et j'ai vu en même temps qu'il était un petit peu louche derrière ses lunettes. J'ai voulu parler, mais cherche, il y en a que pour lui. « Vous êtes madame veuve Samaillou, qu'il m'a dit. Je sais que vous avez fait la fin de votre mari par accident. Ça m'est égal. Vos affaires vont assez bien et vous ne passez pas pour une méchante femme. J'aurais pu vous interroger. Pas besoin. Il est bien sûr que vous en savez long sur cette histoire-là, mais j'en sais plus long que vous, plus long que tout le monde. Et vous m'auriez peut-être dit des choses qui auraient dérangé mon instruction. Non pas que je sois toujours prêt à accueillir la vérité, c'est mon état. Mais enfin... vous n'avez pas reçu l'éducation nécessaire pour comprendre ce que je pourrais vous dire de concluant à cet égard. Trop parler nuit. Vous voulez un permis pour visiter le lieutenant Pagès. Vous êtes parfaitement appuyé, je vais vous donner votre permis. Et tout ça d'une lampée et sans reprendre haleine. Ah, quel robinet! Pendant qu'il cherchait son papier imprimé pour le remplir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit avec ma grosse voix... Le lieutenant Pagès est innocent, comme l'enfant qui vient de naître. Il y a des brigands dans Paris qui sont associés comme les anciens élèves de Sainte-Barbe ou de la Polytechnique. Si monsieur le juge voulait m'écouter, je lui fournirais de fiers renseignements sur les habits noirs. « Vous avez fait cela ? » s'écria Valentine avec inquiétude. « N'aie pas peur, repartit maman Léo, celui-là n'en mange pas, il est bien trop simple et trop bavard. » Il s'est mis à rire d'un air méprisant et m'a dit « Les classes peu éclairées ont besoin de croire à quelque chose qui ressemble au diable. Je connais cette bourde des habits noirs comme si je l'avais inventée. Et je sais qu'à force de courir après des fantômes, mon infortuné prédécesseur, qui n'était pas un homme sans mérite du reste, avait fini par devenir fou allié. Est-ce que le lieutenant Pagès était vraiment fort sur le trapèze? Je suis amateur. Si vous aviez fantaisie de témoigner à des charges, arrangez-vous avec l'avocat. Je ne crains pas les contradictions, et nous avons un petit substitut qui vient chercher chez moi jusqu'aux virgules de son réquisitoire. Il ira bien, ce gamin-là. Voilà votre permis. Quand vous en voudrez d'autres, ne vous gênez pas, et dites au colonel Bozzo que je suis trop heureux de lui être agréable. Toujours cet homme, murmura Valentine. Sans lui, nous serions arrêtés à chaque pas. J'ai peine à croire, ajouta la dompteuse, que son idée soit de nous mener sur la bonne route. La petite minute demandée par le concierge avait duré une grande demi-heure. Il revint enfin accompagné d'un guichetier. Au lieu de la morgue importance qui semble coller comme un masque dur sur tous les visages administratifs, depuis le chef de division assis dans son bureau d'acajou jusqu'à l'homme de peine qui se donne le malin plaisir d'arroser les passants en même temps que la rue, le concierge avait arboré un air affable et presque bienveillant. Fâché de vous avoir fait attendre, dit-il, mais le peloton des corridors est long à dévider. Vous allez suivre monsieur Patras, s'il vous plaît, et si vous vous en souveniez, vous pourriez témoigner au besoin que j'ai mis vis-à-vis de vous tout l'empressement de la politesse, sans compter que je serai encore à votre service une autre fois. Monsieur Patras, ajouta-t-il en se tournant vers le porte-clés, vous allez conduire ces personnes à la cour des mômes, escalier B, corridor Sainte-Madeleine, porte numéro 5. On a accordé 20 minutes. Vous resterez de faction comme c'est nécessaire. Surtout, le prévenu ayant déjà été cause de la mise à pied d'un employé, mais vous y mettrez tous les égards en gênant le moins possible les épanchements de l'amitié. Le porte-clés prit les devants, maman Léo et Valentine le suivirent, traversant d'abord la cour dite des poules, qui était interdite aux détenus parce qu'aucune barrière ne la séparait de la grand-porte. Après avoir passé sous la voûte du corps de logis principal, où les salons de Caumont étaient transformés en dortoirs, le guichetier longea le cloître de la cour Sainte-Marie l'Égyptienne, passa sous le petit hôtel portant alors le nom de Sainte-Anne, et aborda enfin par la cour des mômes, qui servait de promenade pour les détenus au secret, en même temps de préau aux enfants après les heures des repas. Un escalier tournant, étroit et voûté, menait au corridor Sainte-Madeleine, qui faisait partie de l'ancien hôtel de Brienne. Le porte-clés ouvrit la porte de la chambre marquée numéro 5 et laissa le battant entrebâillé après avoir introduit la veuve et son compagnon. Afin d'exécuter de son mieux les prescriptions à lui transmises par le concierge qui venait évidemment de plus haut, au lieu de rester à la porte, il se promena de long en large dans le corridor. Quand nous aurons décrit la cellule de Maurice Pagès, le lecteur verra que cette tolérance était absolument sans danger.